2:10. Ce que Fleury allait faire à Mazas. Dans cette même nuit, vers 4 heures du matin, les abords du chemin de fer du Nord furent silencieusement investis par 2 bataillons, l'un de chasseurs de Vincennes, l'autre de gendarmerie mobile. Plusieurs escouades de sergents de ville s'installèrent dans l'embarcadère. L'ordre fut donné au chef de gare de préparer un train spécial et de faire chauffer une locomotive. On retint un certain nombre de chauffeurs et de mécaniciens pour un service de nuit. Du reste, nulle explication pour personne et secret absolu. Un peu avant 6 heures, un mouvement se fit dans la troupe. Des sergents de ville arrivèrent en courant, et quelques instants après, déboucha au grand trot par la rue du Nord un escadron de lanciers. Au milieu de l'escadron, et entre les 2 haies des cavaliers, on voyait 2 voitures cellulaires traînées par des chevaux de poste. Derrière chaque voiture venait une petite calèche ouverte, dans laquelle se tenait un homme seul. En tête des lanciers galopait l'aide-de-camp Fleury. Le convoi entra dans la cour, puis dans la gare, et les grilles et les portes se refermèrent. Les 2 hommes qui étaient dans les 2 calèches se firent reconnaître du commissaire spécial de la gare, auquel l'aide-de-camp Fleury parla en particulier. Ce convoi mystérieux excita la curiosité des employés du chemin de fer. Les gens de service interrogeaient les hommes de police, mais ceux-ci ne savaient rien. Tout ce qu'ils purent dire, c'est que les voitures cellulaires étaient à 8 places, que dans chaque voiture, il y avait 4 prisonniers, occupant chacun une cellule, et que les 4 autres cellules étaient remplies par 4 sergents de ville, placés entre les prisonniers, de façon à empêcher toute communication de cellule à cellule. Après les divers pourparlers entre l'aide de camp de l'Élysée et les gens du préfet Maupas, on plaça sur des trucs les 2 voitures cellulaires, ayant toujours chacune derrière elles la calèche ouverte comme une guérite roulante, où un agent de police faisait sentinelle. La locomotive était prête. On accrocha les trucs au tender et le train partit. Il faisait encore nuit noire. Le train roula longtemps dans le silence le plus profond. Cependant, il gelait. Dans la seconde des 2 voitures cellulaires, les sergents de ville, gênés et transis, ouvrirent leurs cellules et, pour se réchauffer et se dégourdir, se mirent à se promener dans l'étroit couloir qui traverse de part en part les voitures cellulaires. Le jour était venu. Les 4 sergents de ville respiraient l'air du dehors et regardaient la campagne par l'espèce de hublot qui borde des 2 côtés le plafond du couloir. Tout à coup, une voix forte sortit d'une des cellules restée fermée et cria « Ah, ça, il fait très froid! Est-ce qu'on ne peut pas rallumer son cigare ici ?» Une autre voix partit immédiatement d'une autre cellule et dit « Tiens, c'est vous? Bonjour, la Mauricière !»« Bonjour, Cavaignac !» reprit la première voix. Le général Cavaignac et le général la Mauricière venaient de se reconnaître. Une 3e voix s'éleva d'une 3e cellule. « Ah, vous êtes là, messieurs. Bonjour et bon voyage. » Celui qui parlait là, c'était le général Changarnier. « Messieurs les généraux, cria une 4e voix, je suis des vôtres. » Les 3 généraux reconnurent M. Baze. Un éclat de rire sortit des 4 cellules à la fois. Cette voiture cellulaire contenait en effet et emportait hors de Paris le questeur Baze et les généraux Lamoricière, Cavaignac et Changarnier. Dans l'autre voiture qui était placée la première sur les trucs, il y avait le colonel Charras, les généraux Bedeau et Le Flot, et le comte Roger du Nord. À minuit, ces 8 représentants prisonniers dormaient chacun dans leur cellule à Mazas, lorsqu'on avait frappé brusquement à leur guichet et une voix leur avait dit « Habillez-vous, on va venir vous chercher ». « Est-ce pour nous fusiller ?» cria Charras à travers la porte. On ne lui répondit pas. Chose digne de remarque, cette idée en ce moment leur vint à tous. Et en effet, s'il faut en croire ce qui transpire aujourd'hui des querelles actuelles entre complices, il paraît que, dans le cas où un coup de main aurait été tenté par nous sur Mazas pour les délivrer, une fusillade était résolue.
et que saint Arnaud en avait dans sa poche l'ordre écrit et signé, Louis Bonaparte. Les prisonniers se levèrent. Déjà la nuit précédente, un avis pareil leur avait été donné. Ils avaient passé la nuit sur pied, et à 6 heures du matin, les guichetiers leur avaient dit « Vous pouvez vous coucher ». Les heures s'écoulèrent. Ils finirent par croire qu'il en serait comme l'autre nuit. Et plusieurs d'entre eux, entendant sonner 5 heures du matin à l'horloge intérieure de la prison, allaient se remettre au lit quand les portes de leurs cellules s'ouvrirent. On les fit descendre tous les 8, l'un après l'autre, dans la rotonde du greffe, puis monter en voiture cellulaire sans qu'ils se fussent rencontrés ni aperçus dans le trajet. Une espèce d'homme vêtu de noir, à l'air impertinent, assis à une table et une plume à la main, les arrêtait au passage et leur demandait leur nom. « Je ne suis pas plus disposé à vous dire mon nom que curieux de savoir le vôtre, » répondit le général à Moricière, et il passa outre. L'aide de camp, Fleury, cachant son uniforme sous son caban, se tenait dans le greffe. Il était chargé, pour employer ses propres termes, de les embarquer et d'aller rendre compte de l'embarquement à l'Élysée. L'aide de camp, Fleury, avait fait presque toute sa carrière militaire en Afrique, dans la division du général Lamoricière. Et c'était le général Lamoricière qui, en 1848, étant ministre de la guerre, l'avait nommé chef d'escadron. En traversant le greffe, le général Lamoricière le regarda fixement. Quand ils montèrent dans les voitures cellulaires, les généraux avaient le cigare à la bouche. On le leur ôta. Le général Lamoricière avait gardé le sien. Une voix cria du dehors à 3 reprises. « Empêchez-le donc de fumer !» Un sergent de ville qui se tenait debout à la porte de la cellule hésita quelque temps, puis finit pourtant par dire au général « Jetez votre cigare !» De là, plus tard, l'exclamation qui fit reconnaître le général Lamoricière par le général Cavaignac. Les voitures chargées ont parti. Ils ne savaient ni avec qui ils étaient, ni où ils allaient. Chacun observait à part soi, dans sa boîte, les tournants de rue et tâchait de deviner. Les uns crurent qu'on les menait au chemin du Nord, les autres songeaient au chemin du Havre. Ils entendaient le trot de l'escorte sur le pavé. Sur le chemin de fer, le malaise des cellules alla croissant. Le général Lamoricière, encombré d'un paquet et d'un manteau, était plus à l'étroit encore que les autres. Il ne pouvait faire un mouvement. Le froid le prit. Il finit par jeter une parole qui les mit tous les 4 en communication. En entendant les noms des prisonniers, les gardiens, brutaux jusque-là, devinrent respectueux. « Ah ça !» dit le général Changarnier. « Ouvrez-nous nos cellules et laissez-nous nous promener, comme vous, dans le couloir. »« Mon général, » dit un sergent de ville, « cela nous est défendu. Le commissaire de police est derrière la voiture, dans une calèche, d'où il voit tout ce qui se passe ici. » Cependant, quelques instants après, les gardiens, sous prétexte du froid, baissèrent la glace dépolie qui fermait le couloir du côté du commissaire. Ayant ainsi bloqué la police, comme disait l'un d'eux, ils ouvrirent les cellules des prisonniers. Ce fut une joie aux 4 représentants de se revoir et de se serrer la main. Chacun des 3 généraux, dans cet épanchement, conservait l'attitude de son tempérament. Lamoricière, furieux et spirituel, se ruant de toute sa verve militaire sur le Bonaparte. Cavaignac, calme et froid, Changarnier, silencieux, et regardant par le hublot dans la campagne. Les sergents de ville se risquaient à jeter çà et là quelques mots. Un d'eux conta aux prisonniers que l'ex-préfet Carlier avait passé la nuit du 1er au 2 à la préfecture de police. « Quant à moi, disait-il, j'ai quitté la préfecture à minuit, mais je l'y ai vu jusqu'à cette heure-là, et je puis affirmer qu'à minuit, il y était encore. » Ils gagnèrent Creil, puis Noyon. À Noyon, on les fit déjeuner sans les laisser descendre. Un morceau sur le pouce et un verre de vin. Les commissaires de police ne leur adressèrent pas la parole. Puis, on referma les voitures, et ils sentirent qu'on les enlevait des trucs, et qu'on les replaçait sur des roues. Des chevaux de poste arrivèrent, et les voitures partirent, mais au pas. Ils avaient maintenant pour escorte une compagnie de gendarmes mobiles à pied. Il y avait 10 heures qu'ils étaient en voiture cellulaire quand ils quittèrent Noyon. Cependant, l'infanterie fit halte. Ils le demandèrent à descendre un instant. « Nous y consentons, » dit un des commissaires de police, « mais pour une minute seulement, et à condition que vous donnerez votre parole d'honneur de ne pas vous évader. » « Nous ne donnons pas de parole d'honneur, » répliquèrent les prisonniers. « Messieurs, » reprit le commissaire, « donnez-la-moi seulement pour une minute, le temps de boire un verre d'eau. » « Non, » dit le général Lamoricière, « mais le temps de faire le contraire. » Et il ajouta, « à la santé de Louis Bonaparte. » On les laissa descendre, toujours l'un après l'autre. Ils purent respirer un moment un peu d'air libre en plein champ, au bord de la route. Puis le convoi se remit en marche. Comme le jour baissait, ils aperçurent par leur hublot un bloc de haute muraille un peu dépassé par une grosse tour ronde. Un moment après, les voitures s'engagèrent sous une voûte basse et s'arrêtèrent au milieu d'une cour longue, encaissée, entourée de grands murs et dominée par 2 bâtiments dont l'un avait l'aspect d'une caserne et l'autre, grillé à toutes les fenêtres, l'aspect d'une prison. Les portières des voitures s'ouvrirent. Un officier qui portait les épaulettes de capitaine se tenait debout, près du marchepied. Le général Changarnier descendit le premier. « Où sommes-nous » dit-il. L'officier répondit, « Vous êtes à Ham. » Cet officier était le commandant du fort. Il avait été nommé à ce poste par le général Cavaignac. Le trajet de Noyon à Ham avait duré 3 heures et demie. Ils avaient passé 13 heures en voiture, dont 10 dans le cachot roulant. On les conduisit séparément à la prison, chacun dans la chambre qui lui était destinée. Cependant, le général Lamoricière ayant été mené par mégarde dans la chambre de Cavaignac, les 2 généraux purent échanger encore une poignée de main. Le général Lamoricière désira écrire à sa femme. La seule lettre dont les commissaires de police consentirent à se charger fut un billet portant 7 lignes. « Je me porte bien. » Le principal corps de logis de la prison de Ham est composé d'un étage au-dessus d'un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, traversé d'une voûte obscure et surbaissée qui va de la cour principale dans une arrière-cour, contient 3 chambres séparées par un couloir. Le premier étage a 5 chambres. L'une des 3 chambres du rez-de-chaussée n'est qu'un petit cabinet, à peu près inhabitable. On y logea M. Baz. On installa dans les 2 autres chambres d'en bas le général Lamoricière et le général Changarnier. Les 5 autres prisonniers furent distribués dans les 5 chambres du premier étage. La chambre assignée au général Lamoricière avait été occupée du temps de la captivité des ministres de Charles X par l'ex-ministre de la Marine, M. Dausset. C'était une pièce basse, humide, longtemps inhabitée, qui avait servi de chapelle, contiguë à la voûte noire qui allait d'une cour à l'autre, planchéiée de grosses planches visqueuses et moisies où le pied s'engluait, tapissée d'un papier gris devenu vert qui tombait par lambeaux, salpêtrée du plancher au plafond, éclairée sur la cour de 2 fenêtres grillées qu'il fallait toujours laisser ouvertes à cause de la cheminée qui fumait. Au fond, le lit, entre les fenêtres, une table et 2 chaises de paille. L'eau suintait sur les murs. Lorsque le général Lamoricière a quitté cette chambre, il en a emporté des rhumatismes. M. Dausset en était sorti perclus. Quand les 8 prisonniers furent entrés dans leur chambre, on ferma la porte sur eux. Ils entendirent tirer les verrous du dehors et on leur dit « Vous êtes au secret ». Le général Cavaignac occupa au premier l'ancienne chambre de M. Louis Bonaparte, la meilleure de la prison. La première chose qui frappa les yeux du général, ce fut une inscription tracée sur le mur et indiquant le jour où Louis Bonaparte était entré dans cette forteresse, et le jour où il en était sorti, on sait comment, déguisé en maçon et une planche sur l'épaule. Du reste, le choix de ce logis était une attention de M. Louis Bonaparte qui, ayant pris en 1848 la place du général Cavaignac au pouvoir, voulut qu'en 1851, le général Cavaignac prît sa place en prison. « Chassé-croisé !» avait dit Morny en souriant. Les prisonniers étaient gardés par le 48e de ligne qui tenait garnison à Ham. les vieilles bastilles sont indifférentes. Elles obéissent à ceux qui font les coups d'État jusqu'au jour où elles les saisissent. Que leur importent ces mots, équité, vérité, conscience, qui du reste, dans certaines régions, n'émeuvent pas beaucoup plus les hommes que les pierres. Elles sont les froides et sinistres servantes du juste et de l'injuste. Elles prennent qui on leur donne. Tout leur est bon. Sont-ce des coupables? C'est bien. Sont-ce des innocents? À merveille. Cet homme est le machinateur d'un guet-apens, en prison. Cet homme est la victime d'un guet-apens, écroué. Dans la même chambre, au cachot, tous les vaincus. Elles ressemblent, ces hideuses bastilles, à cette vieille justice humaine qui a tout juste autant de conscience qu'elle, qui a jugé Socrate et Jésus, qui, elle aussi, prend et laisse, empoigne et lâche, absout et condamne, libère et incarcère, s'ouvre et se ferme, au gré de la main quelconque qui pousse du dehors le verrou. 2.11. Fin de la deuxième journée. Quand nous sortîmes de chez Marie, il était temps. Les bataillons chargés de nous traquer et de nous prendre approchaient. Nous entendions dans l'ombre le pas mesuré des soldats. Les rues étaient obscures. Nous nous y dispersâmes. Je ne parle pas d'un asile qui nous fut refusé. Moins de 10 minutes après notre départ, la maison de M. Marie fut investie. Un fourmillement de fusils et de sabres s'y rua et l'envahit de la cave au grenier. « Partout, partout !» criaient les chefs. Les soldats nous cherchèrent avec quelque vivacité. Sans prendre la peine de se pencher pour regarder, ils fouillèrent sous les lits à coups de baïonnette. Quelquefois, ils avaient de la peine à retirer la baïonnette, enfoncée dans le mur. Par malheur, pour ce zèle, nous n'étions pas là. Ce zèle venait d'en haut. Les pauvres soldats obéissaient. Tuer les représentants était la consigne. C'était le moment où Morny envoyait cette dépêche à Maupas. « Si vous prenez Victor Hugo, faites-en ce que vous voudrez. » Tels étaient les euphémismes. Plus tard, le coup d'État, dans son décret de bannissement, nous appela ces individus. Ce qui a fait dire à Schœlcher cette fière parole. Ces gens-là ne savent pas même exiler poliment. Le docteur Véron, qui publie dans ses mémoires la dépêche Morny-Maupas, ajoute « Monsieur de Maupas fit chercher Victor Hugo chez son beau-frère, Monsieur Victor Fouché, conseiller à la cour de cassation. On ne l'y trouva pas. Un ancien ami, homme de cœur et de talent, Monsieur Henri II, m'avait offert un asile dans un petit appartement qu'il avait rue Richelieu. Cet appartement, voisin du Théâtre français, était au premier étage d'une maison qui, comme celle de M. Grévy, avait une sortie sur la rue Fontaine-Molière. J'y allais. M. Henri II était absent, son portier m'attendait et me remit la clef. Une bougie éclairait la chambre où j'entrais. Il y avait une table près du feu, une écritoire, du papier. Il était plus de minuit. J'étais un peu fatigué. Mais avant de dormir, prévoyant que, si je survivais à cette aventure, j'en ferais l'histoire, je voulus fixer immédiatement quelques détails de la situation de Paris à la fin de cette journée, le deuxième du coup d'État. J'écrivis cette page, que je reproduis ici, parce qu'elle est ressemblante. C'est une sorte de photographie du fait immédiat. Louis Bonaparte a inventé une chose qu'il appelle « commission consultative » et qu'il charge de rédiger le post-scriptum du crime. Léon Fauché refuse d'en être, Montalembert hésite, Baroche accepte. Fallou méprise Dupin. Les premiers coups de feu ont été tirés aux archives, aux Halles, rue Rambuteau, rue Beaubourg. J'ai entendu des détonations. Fleury, l'aide de camp, s'est risqué à passer rue Montmartre. Un coup de fusil lui a traversé son képi. Il a vite pris le galop. À 1 heure, on a fait voter les régiments sur le coup d'État. Tous adhèrent. Les élèves en droit et en médecine se sont réunis à l'école de droit pour protester. Les gardes municipaux les ont dispersés. Beaucoup d'arrestations. ce soir partout des patrouilles. Quelquefois une patrouille, c'est un régiment tout entier. Le représentant d'Espel, qui a 6 pieds, n'a pu trouver à Mazas de cellule aussi longue que lui, et a dû rester chez le concierge, où il est gardé à vue. Mesdames, Odilon Barrault et de Tocqueville, ne savent pas où sont leurs maris. Elles courent de Mazas au Mont-Valérien. Les geôliers sont muets. C'est le 19e léger qui a attaqué la barricade où a été tué Baudin. 50 hommes de gendarmerie mobile ont enlevé au pas de course la barricade de l'Oratoire, rue Saint-Honoré. Du reste, le combat se dessine. On sonne le tocsin à la chapelle Bréhat. Une barricade renversée, mais 20 barricades debout. Il y a la barricade des écoles, rue Saint-André-des-Arts, la barricade des rues du Temple, la barricade du carrefour Philippot, défendue par 20 jeunes hommes qui se sont fait tous tuer. On l'a reconstruit. La barricade de la rue de Bretagne, qu'en ce moment Courtigis attaque à coups de canon. Il y a la barricade des Invalides, la barricade de la barrière des Martyrs, la barricade de la chapelle Saint-Denis. Les conseils de guerre sont en permanence et font fusiller tous les prisonniers. Le 30e de ligne a fusillé une femme. Huile sur le feu. Le colonel du 49e de ligne a donné sa démission. Louis Bonaparte a nommé à sa place le lieutenant-colonel Négrier. M. Brun, officier de police de l'Assemblée, a été arrêté en même temps que les questeurs. On a dit que 50 membres de la majorité ont signé une protestation chez Odilon Barrault. Ce soir, anxiété croissante à l'Élysée. On y craint l'incendie. On a ajouté aux sapeurs-pompiers 2 bataillons de sapeurs du génie. Maupas fait garder les gazomètres. Voici sous quelles griffes militaires on a mis Paris. Bivouac sur tous les points stratégiques. Au Pont-Neuf et sur le quai aux Fleurs, la garde municipale. Place de la Bastille, 12 pièces de canon, 3 obusiers, mèches allumées. À l'angle du faubourg, des maisons de 6 étages occupées par la troupe de haut en bas. La brigade Marulaz à l'hôtel de ville, la brigade Soboul au Panthéon, la brigade Cortigis au faubourg Saint-Antoine, la division Renault au faubourg Saint-Marceau. Au palais législatif, les chasseurs de Vincennes et un bataillon du 15e léger. Aux Champs-Élysées, infanterie et cavalerie. À l'avenue Marigny, artillerie. Dans l'intérieur du cirque, un régiment entier. Il a bivouaqué là toute la nuit. Un escadron de gardes municipales bivouaque place Dauphine. Bivouac au Conseil d'État. Bivouac dans la cour des Tuileries. Plus les garnisons de Saint-Germain et de Courbevoie. 2 colonels tués, Loubeau du 75e et Quilio. Partout des infirmiers passent, portant des civières. Partout des ambulances. Bazar de l'Industrie, boulevard Poissonnière. Salle Saint-Jean à l'hôtel de ville, rue du Petit Carreau. Dans cette sombre bataille, 9 brigades sont engagées. Toutes ont une batterie d'artillerie. Un escadron de cavalerie maintient les communications entre les brigades. 40 000 hommes en lutte, avec une réserve de 60 000 hommes. 100 000 soldats sur Paris. Telle est l'armée du crime. La brigade rébelle, 1er et 2e lanciers, protègent l'Élysée. Les ministres couchent tous au ministère de l'Intérieur, près de Morny. Morny veille, Magnan commande. Demain sera une journée terrible. Cette page écrite, je me couchais et je m'endormis. Fin du tome 1er.